Suite de la première épître de Jean, chapitre 2, verset 28.
Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voici maintenant Jean, l'apôtre, l'auteur de l'épître, se tournant vers le futur. Il a envisagé le passé, les racines sont dans le passé, il a envisagé le présent, le maintien, et maintenant il se tourne vers l'objet de l'espérance chrétienne. Et tout se tient dans la vie, le passé, le présent, l'avenir. À la venue en chair du Seigneur Jésus, dont a parlé déjà l'apôtre Jean, et à laquelle il reviendra, c'est un point fort de son épître, à cette venue en chair correspondra immanquablement la venue en gloire du Seigneur, du fait que le Seigneur est venu en chair, petit enfant, il est entré dans son ministère à l'âge de 30 ans, il a accompli toute la volonté de Dieu. De ce fait, sa venue en gloire viendra également, se produira également. Au terme de l'Église et de l'histoire actuelle. Nous disons qu'à l'avenue en chair correspondra immanquablement l'avenue en gloire, au terme de l'Église et au terme de cette dispensation, c'est-à-dire plus exactement de l'économie actuelle, de l'histoire actuelle. Nous sommes dans l'histoire, n'est-ce pas, de l'humanité, cette histoire rendra fin là. Il y a en somme deux événements considérables qui déterminent le salut. Ces deux événements, vous les connaissez, mais il faut toujours les considérer l'un et l'autre. Le premier de ces deux événements est effacé, il est uniquement saisissable par la foi, c'est la première venue du Seigneur, qui n'a pas marqué dans l'histoire profane, et qui est connue par les évangiles, qui est connue par le témoignage des apôtres et le témoignage de Dieu, mais elle fait appel à la foi, elle fait appel à la foi. C'est la venue pour le sacrifice, le souverain sacrificateur. Jésus s'est présenté dans cette fonction de souverain sacrificateur. C'est donc, je dis, la première venue, un événement effacé. Un événement qui est saisissable par la foi. Dieu veut qu'on le saisisse par la foi. Vous n'aurez pas de miracle, vous n'aurez pas d'éclat. Vous demandez un miracle, vous n'en aurez pas. Vous aurez le miracle de Jonas. Jonas. Jonas qui a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Voyez ce passage à travers la mort et la résurrection, saisissez cela par la foi, voilà ce que Dieu vous propose, pas autre chose. Donc l'un, n'est-ce pas, doit être saisissable par la foi, Dieu a bien pris soin. Mais qu'il n'y ait pas de ces preuves qui auraient confondu les incrédules. Non, les incrédules ne seront jamais, au gré de Dieu, que confondus dans l'humiliation, dans l'humilité de leur cœur. Ben ça, c'est formel. Il n'y aurait pas de salut autrement. Le cœur de l'homme ne peut pas être changé s'il n'est abaissé. L'autre événement, le second, est un événement qui, au contraire du premier, est éclatant. Un événement éclatant. Tout œil le verra. C'est l'événement éclatant, celui-là. Parce que la foi est finie. Le temps de la foi est terminé. Le temps de la patience de Dieu se terminera là. Tout œil le verra. La terre en sera illuminée, vers le soir, la lumière viendra, ce jour terrible, froid, qui sera ni jour ni nuit. Alors là, n'est-ce pas, les jugements de Dieu seront là, puis à la fin des jugements, la lumière alors paraîtra, n'est-ce pas, celui qui est la lumière de la vie vient et il illuminera, il vient dans la gloire de Dieu, dans la gloire de son Père. C'est l'éclat, c'est le règne. Ainsi, tout croyant lui, doit être lié à ces deux événements. Son salut, n'est-ce pas, dépend de ces deux événements. Sa vie est en quelque sorte attachée à ces deux événements. Il faut qu'il saisisse le premier, il faut qu'il saisisse le second. Et j'en viens ainsi à justifier, c'est-à-dire expliquer le texte de nos deux versets, n'est-ce pas ? Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Attention, vous avez saisi le premier événement, mais ne manquez pas le second. Ben, voilà l'idée qui est là. Attention au second. Vous avez le premier, vous avez cru en lui, c'est parfait, c'est bien, mais... Il y a un second événement, il vous faut les deux. Le chrétien, n'est-ce pas, est suspendu, sa vie est suspendue, son éternité est suspendue à ces deux événements. Il faut qu'il les, en quelque sorte, il les absorbe, l'un et l'autre, dans son expérience. Tout croyant possède en lui le fruit du sacrifice, par la foi en celui qui est venu pour le sacrifice. Il possède le fruit du sacrifice. Le pardon de ses péchés, l'expiation de ses péchés, n'est-ce pas ? Il la possède par la foi en Jésus-Christ et il faut qu'il possède aussi le règne. Il connaît Jésus comme un souverain sacrificateur. Il doit le connaître comme un roi. Mais attention de ne pas manquer ça. Voilà, n'est-ce pas ? Où Jean nous avertit, là, ici, attention. Le passé, le voilà. Vous l'avez compris, il vous est prêché, annoncé encore. Vous avez saisi Jésus comme souverain sacrificateur de votre vie de péché, n'est-ce pas ? Vous avez reçu par lui le pardon à cause de l'expiation qu'il a faite pour vous. Ça, c'est une chose, mais attention, vous aurez eu, après ce pardon des péchés, cette justification, vous aurez eu un temps de pèlerinage sur la terre. Et cela, n'est-ce pas, vous aura trouvé libre dans l'exercice de la foi. Et si, attention, vous n'avez pas fait attention à ce temps de liberté, ce temps de patience de Dieu, et que vous n'ayez pas saisi d'avance le second événement, vous risqueriez d'être éloigné, d'être confus, d'être dans la honte. Vous risqueriez d'être textuellement, on peut traduire par « rougissant » devant lui, quand il paraîtra. Si le chrétien reste ferme, il sera admis en gloire à la fin des temps, au retour de Jésus-Christ. Nous allons remarquer encore une chose ici, c'est que l'avènement, il est question de l'avènement du Seigneur, l'avènement ne se trouve pas décomposé en ces deux temps, c'est-à-dire d'une part l'enlèvement de l'Église, et d'autre part la parousie, et c'est le mot parousie qui est ici. Parousia. Il ne se trouve pas décomposé. Quand nous avons fait l'étude des deux épîtres aux Thessaloniciens, j'ai également fait cette remarque qu'après une décomposition qu'a fait l'apôtre Paul, et c'est la décomposition à peu près unique, en tout cas unique en sa clarté, qui est faite entre le temps de l'enlèvement de l'Église, n'est-ce pas, et le temps de la parousie qui encadre les jugements. Mais cette distinction n'est pas répétée en général dans l'Écriture. Elle n'est pas répétée, mais parce que l'Écriture entend nous présenter des lignes simples, deux événements, n'est-ce pas ? La première venue, la seconde venue du Seigneur. Ne cherchons pas, n'allons pas chercher le détail des choses, n'est-ce pas ? C'est bon de l'indiquer une fois, mais on n'a pas besoin d'y revenir. Voilà, n'est-ce pas, comment l'Esprit veut nous instruire. Alors, ne soyons pas autrement que l'Esprit. Et n'allons pas, à chaque fois qu'il est question du retour du Seigneur, n'est-ce pas, entrer encore dans le distinguo entre l'enlèvement de l'Église et la parousie proprement dite, n'est-ce pas. Nous compliquons les choses et nous perdons la vue générale que l'Écriture entend nous présenter. Avènement. Avènement, c'est le mot parousia, c'est la venue en gloire, la venue définitive du Christ en son règne, n'est-ce pas. Quand, par exemple, un prince devenait monarque et paraissait au peuple en tête de ses légions et que son effigie, on frappait des médailles à son effigie, n'est-ce pas, pour son entrée dans le règne, eh bien, c'était la parousia. C'était la parousia. Vous voyez ce qu'est la parousia? La parousia du Christ, la parousie. Être sauvé, être admis dans le royaume de Dieu, cela nécessite ce que Jean appelle ici de l'assurance. Ah, attention pour le second événement, parce que pour être inclus dans ce second événement, dans cette gloire qui va venir, n'est-ce pas, pour entrer dans cette gloire, il vous faut de l'assurance. Ce qu'il appelle ici de l'assurance. Ça se traduit, on peut traduire littéralement, par plusieurs mots, enfin disons, liberté, de la hardiesse, un front ouvert, non pas un front baissé, mais un front ouvert, n'est-ce pas, libre, libre de cœur, voyez-vous, n'est-ce pas, le cœur léger, le cœur libre, n'est-ce pas, par opposition à celui, n'est-ce pas, qui est dans la honte, qui rougit quand son maître arrive. Voyez-vous, voilà l'opposition qui se trouve dans ce texte. Qu'on fût éloigné de lui, c'est-à-dire avoir honte lorsqu'il viendra, avoir honte sur soi-même, naturellement, avoir honte de la vie que l'on aura menée. Il sera trop tard à ce moment-là pour faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Avoir honte, on constatera que l'on a gaspillé, perdu le temps de son pèlerinage et que l'on n'a pas manifesté la foi par les œuvres. Le Seigneur ne pourra pas, absolument pas, se déclarer en communion avec l'infidèle. Vous savez, il faut toujours rappeler ce que Jésus a dit lui-même, n'est-ce pas? C'est tellement net, c'est tellement clair, dans Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, c'est-à-dire le jour où il viendra, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et c'était ici, n'est-ce pas, le moyen de caractériser qu'on était dans l'Église, qu'on avait bien tout de même saisi le nom du Seigneur, puisque par ce nom, on a pu faire des miracles, on a pu prophétiser, on a pu chasser des démons. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu, c'est-à-dire je n'étais pas dans la communion et je ne puis pas être maintenant dans la communion avec vous. De même, n'est-ce pas, les vierges folles qui sont écartées de la salle des noces, il n'y a pas de communion. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est clair, c'est net, il n'y a pas à marchander, n'est-ce pas, à discuter, il n'y a pas à essayer de plier ça à une doctrine ou à l'autre. Ah, absolument pas. C'est clair, c'est net. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui se présentera et qui, au long de son pèlerinage depuis sa conversion, aura toujours, n'est-ce pas, pataugé dans l'iniquité, ce sera, en quelque sorte, maintenu dans l'iniquité et non dans la justice, eh bien, celui-là, il aura beau avoir pu saisir, par la foi, saisir, je dis bien, par la foi, n'est-ce pas, des choses extraordinaires. Paul envisage même que, par la foi, on puisse déplacer les montagnes. Qu'on puisse parler toutes les langues, des hommes et des anges, n'est-ce pas? Il aura pu faire tout cela. S'il a commis l'iniquité, le Seigneur lui dira, retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Il sera confus et éloigné du Seigneur. Voilà ce que Jean veut dire ici à son tour. Alors, ça, c'est pas la peine de faire de la doctrine, c'est pas la peine de discuter. C'est ça dans les Écritures, c'est pas autre chose. N'est-ce pas? Je suis absolument horripilé par tous ces gens, n'est-ce pas, auteurs ou autres, qui veulent discuter ces choses. Ça ne se discute pas. C'est clair, c'est net. N'est-ce pas? Là, il va nous dire, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas né de lui. Appliquons ça à nous-mêmes, recevons-le comme un avertissement, il est tranchant certainement, n'est-ce pas, mais recevons-le tel qu'il est. Il y aura, nous le savons, n'est-ce pas, par deux passages, notamment des épîtres de Paul, il y aura comparution devant le tribunal de Christ. C'est ainsi que la chose est présentée, n'est-ce pas, nous voyons déjà un peu cette comparution, n'est-ce pas, des hommes, des croyants, n'est-ce pas, enfin des croyants, des membres, des gens qui se voyaient membres de l'Église et qui avaient même saisi la puissance du nom de Jésus et qui disent, ah ben Seigneur, tu vois, nous sommes des tiens, n'est-ce pas, nous, Tu nous prends maintenant, n'est-ce pas? Nous entrons parce que, tu vois bien, nous avons fait des miracles, nous avons chassé des démons. Retirez-vous de moi. Ça, c'est un jugement. Voilà le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5 et verset 10 nous dit ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, et ça c'est tous, c'est à l'Église que c'est dit, n'est-ce pas? Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Selon le bien ou selon le mal, n'est-ce pas? S'il a fait le mal et s'est maintenu dans l'iniquité, pas question d'entrer dans la vie, ce n'est pas possible. Il faudrait que Christ, n'est-ce pas, se déclare en communion avec un infidèle, avec quelqu'un qui s'est tenu dans l'iniquité. C'est impossible. C'est impossible. Absolument impossible. Donc il y aura ce tribunal de Christ qui est annoncé. Il faudra pouvoir, par conséquent, être libre et assuré. Assuré, avoir de l'assurance, être libre. Ne pas être meurtri, ne pas être sous le poids, sous le fardeau, n'est-ce pas, d'une responsabilité qui provoque la honte. Alors là, cela nous éloignerait de lui. Être libre, au contraire de cela, être tranquille, heureux, au jour de Christ, à la parousie. Vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Jean précise comment le chrétien sera en état de parésia, n'est-ce pas? Cet état qui est traduit par assurance, comment sera-t-il dans cette situation, dans cet état-là? Il sera en état de parésia s'il est vraiment né de Dieu et que cela se soit manifesté par la pratique de la justice. Ainsi Jésus jugera selon ce qu'aura été l'œuvre de chacun devant la justice. Il jugera selon ce qu'aura été l'œuvre de chacun. Il est juste, il fait application de la justice. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez. Il ne peut pas en être autrement. N'est-ce pas? Quelqu'un qui est juste, d'abord qui prononce un jugement juste, et qui est juste par sa personne elle-même. Christ a toujours été soumis entièrement à la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Il l'a déclaré quand il était dans le cours de son ministère. Il l'est bien sûr maintenant, il l'est toujours, n'est-ce pas? Il n'a jamais été dissocié, sa volonté n'a jamais été dissociée de celle de Dieu. Il a toujours été, n'est-ce pas, soumis à la volonté du Père, et c'est cela qui fait qu'il est juste. Comment pourrait-il accepter ce qui n'est pas juste? Étant donné que toute son œuvre, son accomplissement, a précisément tendu à faire des hommes qui étaient dans l'iniquité, qui étaient dans le péché, à en faire des hommes justes, à les justifier et à les purifier de leurs impuretés. Le sang de Christ nous purifie de tout péché, mais, n'est-ce pas, nous avons vu qu'il fallait marcher dans la lumière. Alors, il est juste, il fait application de la justice. Une vie n'est véritable et nouvelle que si elle se montre conforme à la volonté de Dieu. La justice, ce n'est pas autre chose que cela, n'est-ce pas? Pratiquer la justice, ça ne veut pas dire donner, quand on en a l'occasion, à l'un ce qui lui revient et à l'autre aussi, n'est-ce pas? Par exemple, un chef d'entreprise pourrait très bien, n'est-ce pas, se montrer juste avec ses employés, ses ouvriers, sans pour autant pratiquer la justice devant Dieu, n'est-ce pas? La justice dans sa propre vie. Quiconque pratique la justice dans sa propre vie. Jean veut prévenir un défaut. Il veut prévenir ici un grave défaut. Celui de se voir trop facilement en règle avec la justice de Dieu. Et il ne veut pas, n'est-ce pas, entretenir cet équivoque. L'assurance nécessaire d'être enfant de Dieu et de pratiquer la justice, ce n'est pas une assurance qu'il faut demander à la chair. Ce n'est pas une assurance que peut nous fournir la chair, elle nous fournirait une assurance trompeuse. L'assurance d'être dans la justice ne peut pas être fondée sur une foi superficielle, sur une foi qui se contente de l'énoncé, de la doctrine. Et nous touchons là un grand malheur. Combien de fois n'avons-nous pas lu dans des petits des petits papiers, des traités ou dans des toutes sortes, n'est-ce pas, de livres, de petits livres, n'avons-nous pas lu quelque chose, par exemple, comme ceci? Eh bien, l'Écriture dit, n'est-ce pas, que vous êtes enfants de Dieu, elle vous en donne l'assurance parce que vous avez cru en lui, vous croyez que Jésus, vous êtes enfants de Dieu, et c'est très bien, croyez que vous êtes enfants de Dieu, croyez que vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, croyez ceci, bon, admettez-le, et puis voilà, on énonce les choses, vous croyez cet énoncé, alors vous avez, oh, c'est pas vrai, ah, quelle illusion, l'énoncé c'est une chose. N'est-ce pas? Mais il ne faut pas que le dire, il ne faut pas croire simplement le dire, il faut croire sur le fait. Il faut que la chose se passe vraiment, c'est le fait qu'il faut considérer et non pas l'énoncer seulement. N'est-ce pas? Voyez, je pense que vous saisissez bien. Et malheureusement, n'est-ce pas, il y a dans une partie du monde évangélique, certaines, je ne veux pas les désigner, n'est-ce pas, mais enfin, des gens, n'est-ce pas, qui sont hors du plein évangile, et qui alors, n'est-ce pas, professent un christianisme de texte, un christianisme de doctrine. Ben, vous admettez la doctrine. Ah, la foi, c'est d'admettre une doctrine. Vous admettez l'énoncé de la doctrine, vous dites, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai, bon, eh bien, ça va bien. Alors, vous avez tout. Et puis si vous vivez, essayez d'arranger ça, de corriger ça. Mais du moment que vous avez cru, que vous croyez ça, ça va, vous êtes sauvé. Quelle illusion! Et Jean, n'est-ce pas, veut nous mettre en garde contre cette illusion. L'assurance, n'est-ce pas, qu'il faudra avoir, la parésia, qu'il faudra avoir devant le Seigneur à son retour, ne peut pas être fondée sur une foi superficielle. Il faut vraiment qu'elle soit fondée sur les œuvres justes des saints. Les œuvres justes. C'est-à-dire, n'est-ce pas, il faut bien revenir à cette belle formule de l'évangile de Jean, vous êtes directement passé de la mort à la vie, n'est-ce pas, et la vie, vous allez la manifester. Il faut que la vie soit manifestée. C'est la manifestation de la vie qui va être le test, et non pas le fait que vous avez cru l'énoncé d'une doctrine, que vous avez cru, n'est-ce pas, quelques versets bibliques qu'on vous a présentés particulièrement. Ce n'est pas cela. Les versets bibliques ont été là pour vous éclairer, pour vous informer, mais non pas pour eux seuls accrocher votre foi et eux seuls vous donner un brevet d'enfant de Dieu, n'est-ce pas, et d'héritier du royaume de Dieu. C'est pourquoi, d'ailleurs, n'est-ce pas, le psalmiste demande « Sonde-moi, Éternel, sonde-moi, éprouve-moi ». Pourquoi le psalmiste, n'est-ce pas, c'est la vérité, ça, n'est-ce pas, dans toute l'Écriture, est la vérité. « Sonde-moi, éprouve-moi ». Pourquoi? Parce que je ne peux pas le faire moi-même. Si je le fais moi-même, je vais me tromper. Je vais me dire « Eh ben, ça va pas trop mal ». Oui, oh, ben, ça va, moi, je vis chrétiennement, je ne fais rien de mal, je ne fais rien de mal. Vous savez qu'ici, souvent, je l'entends encore. Je l'entends quelquefois encore. Ça, n'est-ce pas? Oh, ben, je fais rien de mal. Mais, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi. Si c'est ton esprit qui me montre ma vie, ce qu'est ma vie, devant toi, à ton regard, alors là, je saurai. Là, vraiment, ce sera une vue de l'esprit sur moi. Et c'est cette vue-là qu'il faut trouver. Ben, la vue de Christ. Christ disant, je connais tes œuvres. Je sais quel est ton fidèle service, mais je sais aussi ce qui ne va pas. Je sais aussi le danger, n'est-ce pas, qui est en toi. Quelqu'un qui n'est pas parvenu à vivre selon la justice, sauf accident, bien sûr, n'est-ce pas, je ne dis pas d'une façon telle qu'il n'y aurait jamais eu de chute, il n'y aurait jamais eu de petite chute ou d'écart, n'est-ce pas, je ne dis pas cela, mais qui ne serait pas parvenu à vivre selon la justice, n'est pas entré dans un changement réel, il n'est donc pas entré dans la vie véritable. Seul celui qui pratique la justice est né de lui. Alors, on me dira, mais c'est tellement absolu ça que... Alors là, moi, je ne vais pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir être me ranger parmi ceux n'est-ce pas, qui ont pratiqué la justice et qui sont nés de lui parce que il m'arrive, hélas, à tel moment, à tel autre, n'est-ce pas, encore de commettre un péché. Eh bien, je pourrais répondre à plein de choses, n'est-ce pas. Il peut y avoir, mettons, une marche qui soit, si vous voulez, celle-ci, n'est-ce pas. Je suppose, n'est-ce pas, une marche sinueuse, la marche dans la vie chrétienne maintenant, n'est-ce pas. Mais si je prends ce point-là, et si je prends celui-ci, n'est-ce pas, et que je trace ici une ligne, je m'apercevrai, n'est-ce pas, que la ligne est montante, et que j'ai été en progrès, et que j'ai tout de même accompli la justice, n'est-ce pas. Je ne suis pas resté, n'est-ce pas, si vous voulez, dans cette situation qui aurait pu être, je suppose, celle-ci, n'est-ce pas. Voilà. Voilà, n'est-ce pas. L'iniquité. L'iniquité étant entrée dans ma vie ensuite. Et puis, une deuxième chose que l'on peut répondre aussi, c'est ce qu'on trouve dans les exemples bibliques et particulièrement dans la vie d'Abraham. La vie d'Abraham est extrêmement intéressante, non pas pour faire, comme on le fait quelquefois, n'est-ce pas, uniquement exalter les choses, mais il faut voir tout dans une vie. Il faut voir ce qui est négatif, et la Bible nous le montre, c'est le livre de vérité. Ce qui est négatif, ce qui est positif. Eh bien, vous savez, Abraham, qui est le père des croyants, ce n'est pas pour l'accuser, n'est-ce pas, mais c'est pour voir les choses telles qu'elles sont présentées. Il a commis bien des erreurs. Il en a commis, n'est-ce pas, même de fameuses. Hein? Le jour, par exemple, et cela à deux reprises, où il a présenté sa femme comme sa sœur, ce qui était un demi-mensonge et une demi-vérité. Bon, il a présenté sa femme comme sa sœur, et puis il a rendu là un témoignage épouvantable, il a fallu que Dieu redresse les choses. Ben, ce n'était pas glorieux, évidemment, pour un prophète de Dieu, n'est-ce pas. Donc, il a commis des fautes. Il a commis, et à part ça, n'est-ce pas, il a fait des actes magnifiques, des actes de justice, et le grand acte de justice qui a couronné tout, l'offrande de son fils, n'est-ce pas. Il est devenu ainsi le père des croyants. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, que cet homme qui est qualifié dans le Nouveau Testament de juste, la justice lui fut imputée, n'est-ce pas, vraiment, la justice lui fut imputée, elle n'était pas de lui la justice, mais elle lui fut imputée à cause de sa foi. Et il a manifesté sa foi, mais non pas sans avoir commis, n'est-ce pas, de lourdes fautes. Alors, je ne vous engage pas là, n'est-ce pas, à passer l'éponge vous-même sur vos fautes, c'est pas ce que je veux dire, n'est-ce pas. Seulement, je veux tout de même, n'est-ce pas, répondre à ce souci que vous pourriez avoir, vous concernant, n'est-ce pas, en lisant ce texte, n'est-ce pas, quiconque pratique la justice est né de lui, et par conséquent, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas né de lui et n'a pas part à la vie éternelle. Il y aura donc, n'est-ce pas, un jugement que seul Christ pourra porter sur votre vie. Mais il n'empêche, n'est-ce pas, qu'il faudra que votre vie soit une vie ascendante dans la sanctification. Le Seigneur aura pu vous pardonner vos fautes, peut nous pardonner nos fautes, n'est-ce pas, à condition, bien sûr, que nous les reconnaissions, que nous les confessions, tout cela est sous-entendu, pourra nous pardonner nos fautes, mais il faudra que notre vie soit une vie qui monte, une vie qui aille de progrès en progrès, de gloire en gloire, une vie de perfectionnement. Ça nous dit l'Écriture. Il ne peut pas en être autrement, il faut qu'il y ait une moyenne, n'est-ce pas, ascendante, une moyenne. Le mot moyenne n'est pas très heureux, mais enfin, disons, qu'il y ait une allure ascendante et que la fin de la vie, n'est-ce pas, soit vraiment la manifestation que la vie nouvelle est là. Elle a pu être mise momentanément en échec par le diable, mais si quelqu'un est tombé, son maître le relève. Il veut le relever pour qu'il continue, il reprenne sa marche ascendante. En résumé, Jean délivre l'avis suivant. Voilà, n'est-ce pas, l'avis qu'il nous délivre. Puisque vous savez bien que votre maître est juste, c'est-à-dire qu'il s'est parfaitement tenu lui-même dans la pratique de la volonté divine. Vous le savez, ça, n'est-ce pas? Il s'est tenu dans la pratique de la volonté divine. Alors, puisque vous savez cela, votre maître ne pourra que vous demander à vous aussi cette même pratique de la volonté divine. Ce sera le test auquel tout homme sera reconnu né de Dieu, ayant reçu la vie nouvelle, l'assurance qu'il est agréable à Dieu. Notez que l'apôtre Pierre ne nous dit pas autre chose que cela. Je vous rappelle ce que dit l'apôtre Pierre. C'est pourquoi, 2 Pierre 1,10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Il faut arriver à ne plus broncher. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est ainsi, c'est dans ces conditions-là. C'est dans ces conditions-là que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée, vous sera radicalement accordée, n'est-ce pas? Mais autrement, il y a un problème. Un problème de jugement. Et pour tout homme né de Dieu, il n'y aura donc aucun problème pour tout homme qui sera né de Dieu et aura manifesté cette naissance de Dieu, aucun problème. Tout dépend donc de la possession de la vie nouvelle, laquelle se sera manifestée par la pratique de la justice ou pratique de la volonté divine. Le dire ou le croire, je crois que je, etc., le dire ou le croire ne sera rien. Le fait sera tout. Pratiquer la justice, c'est un fait. Ce sera donc sur un fait. Ce sera bien sur des œuvres, ne l'oublions pas. Ça, c'est le grand jugement de Dieu. Hein? Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Alors, d'aucuns en tirent, pas par les œuvres, mais par la foi, c'est vrai. Mais d'aucuns en tirent cette conséquence stupide que le chrétien, il ne lui est pas demandé d'œuvres. Comment? Mais quelle est la robe de fin lin? Sinon, les œuvres justes des saints. Et d'une façon générale, les chrétiens différemment des païens, mais d'une façon générale, tout le monde sera jugé sur le fait, sur les œuvres, sur des faits. C'est tellement important cela que Jean y reviendra avec l'expression « né de Dieu » qui lui est propre et qui est très belle. « Né de Dieu » signifie, n'est-ce pas, être passé par une naissance produite par Dieu. Produite par Dieu, produite par un engendrement. Un engendrement de la puissance créatrice de Dieu. Enfin, c'est ça, né de Dieu d'abord. C'est d'abord ça, n'est-ce pas? Une naissance qui est produite, je vous rappelle le début de l'évangile de Jean, au chapitre 1er et au verset 11 et 12. Elle est venue, la parole de Dieu, chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire à sa personne, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, par une action de Dieu. Uniquement, l'homme qu'a-t-il fait? Il n'y est pour rien dans cette naissance. Il ne peut pas être pour quelque chose, ce serait ridicule de l'envisager. Il n'y est pour rien, il a exercé la foi, il s'est humilié. Et encore est-il que la foi lui est considérée comme une œuvre, mais n'est-ce pas, encore est-il que ce n'est pas lui-même qui l'a fait. L'Esprit de Dieu est venu au moment où il était dans la disposition nécessaire. Il a été frappé peut-être par la vie, n'est-ce pas? Je frapperai, je guérirai. Alors le Seigneur est venu au moment favorable où il était humilié, n'est-ce pas? Et puis, alors là, il l'a convaincu de péché, il s'est repenti, il a saisi le pardon de ses péchés en Christ. Voilà le processus. Mais l'homme, n'est-ce pas, n'a fait que cela. Personne ne peut se faire naître lui-même, évidemment. Voilà. Si bien que la souveraineté de Dieu est entière. Et comme le dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas, le croyant est devenu un enfant de Dieu, un chrétien, selon l'élection de la grâce. L'élection de la grâce, l'élection. La souveraineté de Dieu est entière. Elle est entière, et il faut qu'elle soit entière. Car, chers amis, si l'homme avait fait quelque chose dans son salut, ou quelque chose pour se faire naître, eh bien, ce quelque chose serait nécessairement imparfait, et la vie nouvelle ne peut pas être basée sur de l'imparfait, elle ne peut être que basée sur tout ce qui est absolu, ce qui est de Dieu, Par conséquent, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu, indépendamment de cette pensée que, enfin, il faut pour cela le pouvoir créateur que Dieu seul possède. Mais disons, n'est-ce pas, que il faut que soit, ça vienne de l'absolu, il faut que ça vienne du parfait, et par conséquent, il faut que la souveraineté de Dieu soit entière. Oh, ça, il ne faut surtout pas toucher à la souveraineté de Dieu. En outre, cette naissance de Dieu, alors celui qui est né de Dieu, n'est-ce pas, est entré dans une filiation nouvelle. Voilà deux choses. Non seulement cette naissance est produite par Dieu, n'est-ce pas, Dieu seul, mais deuxièmement, il y a une conséquence, c'est que en naissant de nouveau, il entre dans une filiation nouvelle et il est appelé enfant de Dieu. Voilà pourquoi il est enfant de Dieu, c'est qu'il entre dans une filiation nouvelle. Ainsi, les efforts humains de renouvellement sont-ils sans efficacité? S'il en était autrement, l'homme aurait contribué, évidemment, à son salut. Vous êtes passé de la mort à la vie. Ce n'est pas pour que nous chantions ça, n'est-ce pas? Voyez, je crois et je suis passé de la mort à la vie. Voyez, n'est-ce pas? C'est pour nous dire ceci, vous êtes passé. C'est pas vous qui vous passez de la mort à la vie, vous êtes passé par Dieu. Voilà ce que Jésus, n'est-ce pas, a voulu faire entendre. Dieu a raison de cette foi qui consistera à manger ma chair et à boire mon sang, précisera-t-il, n'est-ce pas? Attention, voilà la foi qui sauve, ben, celle qui mange la chair, qui boit le sang. Bon, eh bien, alors, à raison de cette foi, vous serez passé par Dieu de la mort à la vie. Hein? Voilà, n'est-ce pas, ce qu'il faut bien retirer de ce beau passage, il ne faut pas en abuser dans notre dialectique évangélique ou d'évangélisation, abuser de ces formules-là, elles sont beaucoup trop profondes pour qu'on puisse valablement en abuser. Par cette naissance, donc, cette naissance qu'un véritable enfant de Dieu a connue, eh bien, la création déchue meurt en lui. Nous avons tous un morceau, avant d'être convertis, un morceau de la création déchue. Nous sommes issus de la création déchue, nous sommes issus. La première humanité, création déchue. Alors, cette création déchue, avec ses caractéristiques, n'est-ce pas, avec ses impératifs, avec toute sa détermination au mal, cette création déchue meurt. Elle doit mourir. La mort à soi-même, la mort avec Christ, et c'est la mort de la création déchue, en soi, pour sa part, n'est-ce pas. Alors, cette création déchue meurt, et la création nouvelle apparaît, la vie de résurrection, c'est l'apparition de la création nouvelle. Mais la vie qui découle de cette naissance ne va pas se maintenir et se manifester par une force propre de l'homme. De même que l'homme n'a pas pu se faire naître de nouveau, il est passé par son Dieu de la mort à la vie, il n'a pas pu se faire naître de nouveau, et bien de même il ne va pas se conserver dans la vie nouvelle lui-même par une force qui est en lui. Voilà le problème du chrétien, voilà l'erreur du chrétien. Quand la foi vacille et qu'on en revient, n'est-ce pas, à quelques efforts pour se redresser soi-même, mais on ne fait que s'enfoncer. L'homme ne va pas se maintenir lui-même et manifester la vie nouvelle par une force propre qu'il tirerait de lui, mais uniquement par un fait, un nouveau fait qui suit le fait de la naissance nouvelle. Un deuxième fait vient, n'est-ce pas, et ça, alors, c'est dans toute la doctrine, la théologie de Jean, n'est-ce pas? Un fait nouveau apparaît pour maintenir la vie, c'est le fait de la communion. N'est-ce pas? Le fait de la communion. Sans ce fait de la communion, il n'y a pas de maintien de vie. La vie, n'est-ce pas, nous ne savons pas, voulons pas faire une doctrine pour définir toute l'œuvre de Dieu, et une doctrine qui aurait la prétention d'inclure, n'est-ce pas, toute la science de Dieu. Non, pas du tout. Mais nous constatons avec l'Écriture qu'il y a un premier fait dépendant de la souveraineté de Dieu. Un premier fait, c'est la naissance que personne ne peut produire soi-même. Un deuxième fait pour rester dans la vie nouvelle, parce que si on entre dans la vie nouvelle pour ne plus y rester, n'est-ce pas, ça ne va pas. Eh bien, c'est le verbe demeurer, n'est-ce pas, qui est encore là dans le verset 28, que nous retrouvons souvent dans les écrits de Jean. Demeurer, n'est-ce pas, demeurer, se maintenir. Alors ça, c'est la communion, et la communion, c'est l'une des grandes leçons de cet épître. naître de nouveau, c'est le premier acte de Dieu, pour entrer dans la vie nouvelle, et la communion, c'est le deuxième acte de Dieu, dépendant de la souveraineté de Dieu, pour demeurer. Vous avez tous été appelés à la communion de son Fils. Et là, Jean nous avait dit ceci, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et chers amis, je le redis à nouveau, parce qu'une fois, deux fois, c'est pas assez. Là, nous laissons de côté, et ça, n'est-ce pas, le diable vient là avec son cinéma, avec ses tableaux, avec ses séductions, n'est-ce pas, avec ces petites choses qui piquent la curiosité, et avec la curiosité, il nous tient par le bout du nez, n'est-ce pas. Des chrétiens curieux, oh, chers amis, affreux. Nous avons de la curiosité souvent pour des aspects nouveaux de la doctrine, des aspects pernicieux, diaboliques même. Ah, la curiosité. La curiosité qui appâte les chrétiens. Ils courent partout avec la curiosité. Chers amis, non, la parole de Dieu est là. La parole qui nous a engendrés, nous l'avons déjà dit, c'est elle qu'il faut garder, maintenir en soi. Et c'est elle qui nous montre la communion, deuxième acte de Dieu pour rester dans la vie nouvelle. Dieu reste Dieu. Ne croyons pas que Dieu puisse être autrement que lui-même. Il reste lui-même. Tout dépend de lui par Jésus-Christ. L'homme demeure la créature. Dieu reste Dieu, l'homme reste créature. Il n'est pas le créateur, il est la créature. Et il demeure la créature que seul Dieu peut animer et faire vivre en vie nouvelle, mais à condition que l'homme se prête à la communion. Le succès de cette vie vient donc du lien homme-Christ. Le lien homme-Christ, n'est-ce pas, ce lien, c'est lui qui est le succès de la vie nouvelle. La victoire vient de Dieu en Jésus-Christ, la victoire sur le mal, la victoire pour manifester vraiment la vie nouvelle, il faut une victoire, elle vient de Dieu en Jésus-Christ, l'homme de foi. Dans la communion, on est en somme la manifestation. L'homme de foi qui est placé dans la communion, au Fils et au Père, il manifeste la vie nouvelle. Ainsi, quiconque pratique la justice est né de Dieu, et la phrase se retourne, ce quiconque est régénéré, et la justice qui se manifeste en lui est l'œuvre de Jésus-Christ.